Bonjour et bienvenue dans notre magazine hebdomadaire Parcours. André Bourguet au micro. Parcours pour une fois, dont je me permets d'assumer le contenu. Il y a quelques années, on m'a demandé un article sur l'islam à travers les siècles. Il m'est venu à l'idée de repartir sur ce thème, estimant que dans le climat actuel de tension, il faut prendre le temps de situer les choses pour éviter des jugements qui participent d'une façon ou d'une autre de la violence. Et j'intitule cela « Du prophète à Daesh ». Évidemment, je mesure le côté provocant, voire pernicieux d'un tel titre. Je commencerai donc par le justifier et le relativiser. D'abord, je n'ignore pas que dans la sensibilité musulmane, comme aussi chez certains chrétiens, on peut rencontrer une résistance à la présentation historique du fait religieux. On lui reproche d'éliminer le mystère, de relativiser en quelque sorte la révélation, autrement dit, la vérité elle-même. Pourtant, la tension actuelle porte bien sur des enjeux de civilisation, à travers l'action politique et militaire, nous sommes bien dans l'histoire. Pour en revenir à mon titre, du prophète à Daesh, il est à mon avis l'expression la plus brute de l'imaginaire français, sinon occidental, en la matière. Dans notre coin du monde sécularisé et douillet, on ressasse en permanence la question de la violence en rapport de préférence à la religion. Surgisse Daesh, la preuve est faite. En fait, que fait-on? Le trajet inverse, de Daesh au prophète. On sait bien qu'on n'avait pas attendu ça pour connaître des horreurs et souvent pires. Mais derrière Daesh, il y a tout un monde, évidemment l'horreur syrienne, qu'on globalise par ignorance d'ailleurs. Mais à quoi d'autre n'a-t-on pas encore envie de penser? Du Pakistan au Nigeria, autant de lieux où le prophète est convoqué pour la destruction. Et de là-bas, on passe au Bataclan, qui nous renvoie à nos banlieues, la boucle est bouclée. Je précise alors ma perspective. Je dis « du prophète à Daesh » au sens où on peut comprendre le prophète Mohammed comme le point de départ d'une civilisation et Daesh comme un clignotant dans la crise actuelle du monde arabo-musulman, mais aussi comme un règlement de compte avec l'Occident. J'ai pris la précaution de dire que nous avons connu d'autres horreurs. Restons-en au nazisme et au stalinisme. Commençons par souligner que ces sommets de l'horreur se sont produits dans les espaces qui pensaient pouvoir définir la civilisation par leur puissance. Notons aussi, et c'est important, que ce n'est pas la religion qui a inspiré cette forme de violence, mais qu'au contraire, la violence s'est attaquée aux théologies en cours. Elle s'est défoulée de façon particulièrement ignoble sur le peuple juif et ses valeurs fondatrices. Qu'un phénomène semblable se soit produit en Russie montre bien qu'il ne s'agit pas d'une exception, comme quoi la violence politique passe par un montage idéologique qui n'a pas besoin d'être téléguidé par une religion, et en fait qui fonctionne, si on y réfléchit bien, comme une religion. Du coup, pour relativiser, dis donc que j'ai titré « Du prophète à Daesh » comme on pourrait titrer « De Jésus à Donald Trump » en pensant une certaine histoire chrétienne, sans vouloir généraliser bêtement. L'histoire de la chrétienté inspire aujourd'hui, et pas seulement d'ailleurs, qu'il peut y avoir quelques contradictions entre Jésus et les pratiques et principes qu'on a tirés de son enseignement, devenant petit à petit système social, religieux, jusqu'à devenir idéologie politique. Eh bien oui, cela nous fait penser à un certain Moyen-Âge, on aime bien faire sonner ce mot, mais ce n'est pas moins grave avec la monarchie de Louis XIV. Et pourquoi pas avec certains courants du protestantisme américain, j'y arrive. L'anticléricalisme occidental profite de ces distorsions, et le prophète de l'islam n'est pas plus maltraité chez nous que Jésus. Au fond, s'il y a distorsion, c'est entre l'appel à un idéal de foi d'un côté et les exigences de gestion d'un espace de civilisation confondu avec le royaume de Dieu, largement légiféré. Le passage de Jésus à la chrétienté en 400 siècles est en fait l'introduction nécessaire au parcours que nous voulons faire du prophète Mohammed à Daesh. C'est là que j'embraye sur ma page d'histoire. Il paraît à peine décent d'effleurer en quelques minutes un sujet aussi vaste qu'une présentation du monde musulman des origines à nos jours. Aussi, je suggère qu'avant de m'écouter, on se demande ce qu'on pourrait penser d'un quelconque professeur de lycée musulman exerçant dans un bourg à 100 km de Téhéran et qui évoquerait de la même manière une histoire du christianisme pour aider les gens à comprendre un peu le comportement de Carter, prédicateur laïque et chef d'État à une époque présent dans le Proche-Orient, ou les funérailles internationales de Charles de Gaulle à Notre-Dame de Paris, et pourquoi pas le moralisme un peu spécial de George Bush. On pourrait réfléchir aussi sur l'intérêt de ce genre d'évocation historique, dont on ne voit pas toujours comment tirer un enseignement spirituel. On en dira un mot plus tard. Malgré la difficulté d'établir des statistiques, on peut estimer aujourd'hui que les musulmans représentent environ 1,5 milliard de personnes sur notre planète, c'est-à-dire plus d'un cinquième de l'humanité vraisemblablement, et contrairement à ce que l'on croit souvent, ils concernent des populations de races, si je puis dire, et de civilisations différentes. Par exemple, on confond souvent musulmans et arabes. Or, non seulement ce que nous appelons le monde arabe ne fait que le quart du monde musulman, mais encore il faut noter que dans ce monde arabe subsistent des foyers anciens de christianisme, notamment au Liban, j'y reviendrai à la fin. À vrai dire, le mot arabe engendre de nombreuses confusions. Au sens strict, les arabes sont les populations de la péninsule arabique, que nous appelions les sarrasins, et que nous pouvons identifier depuis les anciens textes bibliques, mais on étend souvent le terme à tous les sémites du Moyen-Orient, de langue araméenne au temps biblique, de langue arabe aujourd'hui. Au passage, les juifs ne représentent dans cet ensemble, depuis les anciens temps, qu'une communauté culturelle et religieuse particulière. Je remarque encore que ce sens élargi s'applique mal aux Égyptiens et à plus forte raison aux peuples d'Afrique du Nord, même s'ils ont adopté plus ou moins la culture arabe. Un autre secteur longtemps influent est celui du groupe turco-mongol. Notre histoire connaît bien ces Turcs originaires d'Asie centrale, au-delà de la mer Caspienne. Turkestan, Turkménistan, ces noms vous disent quelque chose. À la fin du Moyen-Âge, ils prenaient Constantinople après avoir soumis les Arabes du Proche-Orient. Ils ont poursuivi dans tout le nord de l'Afrique, sauf le Maroc, il faut le préciser. En Europe, ils ont pénétré abondamment dans les Balkans, jusqu'en Albanie, zone où nous trouvons encore des sociétés musulmanes. Ici pourrait remonter à notre mémoire toute une agitation européenne, au temps de Charles Quint et de François Ier, lequel s'était tourné vers les Turcs. Un grand point d'interrogation à l'époque, vous vous en doutez. En fait, c'est beaucoup plus à l'est que se trouvent les masses islamiques les plus nombreuses, réparties en deux foyers bien distincts. Le premier est tout à fait à l'ordre du jour dans les régions indo-iraniennes. L'Iran, héritier de l'ancienne Perse, un des plus anciens foyers de civilisation de la planète, il est depuis longtemps le trait d'union de l'Occident avec les peuples blancs de l'Inde. Plus loin en Asie, alors là, nous l'oublions facilement, il faut pousser notre voyage jusqu'en Indonésie, à 85 ou 90% islamique, des centaines de millions de personnes. Enfin, une partie importante du monde africain noir, dernier cité pour la commodité de l'itinéraire géographique, a adopté la piété musulmane. Le mouvement d'adhésion qui se développe aujourd'hui prend des racines dans un islam noir assimilé depuis près de 1000 ans au sud du Sahara, du Sénégal au Soudan, l'actuel Soudan bien sûr. Rappelez-vous ne serait-ce que Tombouctou. À tous ces foyers, il faut ajouter les minorités isolées, Madagascar, en Albanie, j'en ai dit un mot, et bien sûr, toutes les populations émigrées et assimilées en Europe et aux États-Unis, qui représentent un élément nouveau. Bien, un petit bilan de cette géographie. D'un foyer de civilisation à l'autre, on observe la persistance de particularismes vivaces, profonds, même des formes différentes d'adaptation à la révélation coranique. Même les pratiques peuvent varier. Par exemple, en Afrique noire, les femmes ne portent pas le voile, ce qui fait débat aujourd'hui, je le reconnais. Ils font parler des nombreuses écoles juridiques. Toutefois, pendant plus de 15 siècles, l'islam a constitué un important facteur d'unification. L'unité, par-delà la diversité culturelle et sociale, trouve son principe dans une foi, dans la soumission au Dieu unique, base d'une solidarité qui peut défier les rivalités politiques, fondement d'une véritable communauté internationale, malgré l'absence d'une institution comme l'Église chez nous. Communauté qui s'appelle l'Oumma. Maintenant de venir aux origines de cette communauté, faisons un peu d'histoire, en commençant par Mahomet, Mohammed, le prophète, que j'appellerai par commodité Mohammed. L'origine de la communauté de foi à laquelle nous venons de faire allusion est dans la mission assez singulière d'un homme né de conditions modestes à La Mecque, élevé orphelin dans le désert, entraîné jeune dans la vie des caravanes, et qui, vers l'âge de 40 ans, annonce à ses intimes qu'à la suite de visions au cours de jeûne, il a eu la révélation du Dieu unique, le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jésus. Mohammed reçut ces révélations comme la dictée d'un nouveau livre de Dieu, telle sera l'origine du Coran. Sa première détermination et de convertir sa propre ville, idolâtre et assez immorale, et de l'amener à la soumission à la Dieu. C'est le sens du mot islam, on pourrait aussi dire la crainte de Dieu, comme dans l'Ancien Testament. Un Dieu unique, non engendré et qui n'engendre pas, expression fondamentale de la théologie musulmane. Ainsi, contrairement à ce qu'on croit parfois, Mohammed n'est pas le réformateur d'un monothéisme arabe ancien, transmis depuis Abraham et Ismaël, par exemple, pour faire référence à Genèse 25, et qui aurait évolué parallèlement à la tradition juive. Il intervient à l'inverse parmi les Arabes d'Arabie, qui sont animistes, et en fait très peu religieux. Il intervient comme le révélateur du Dieu d'Abraham, le Dieu de la Bible donc, qu'il a découvert lui-même dans ses contacts avec des Juifs et des chrétiens de la Mecque ou des régions syro-palestiniennes que traverse sa caravane. Il faut dire ici un mot du contexte global de ces rencontres. Nous sommes autour de l'an 610. Depuis plus de 100 ans, l'Empire romain n'existe plus. Rappelons-nous les invasions germaniques. Mais si, allez-vous me dire, on parle toujours d'Empire romain, mais il s'agit de l'Empire qui a sa capitale à Byzance, Constantinople, du nom de Constantin, l'empereur qui a fait admettre le christianisme et lui a donné son statut politique. L'ensemble de l'Orient est ainsi divisé entre cet empire byzantin, officiellement chrétien, et l'empire perse, ancêtre de l'Iran actuel, en fait Iran plus Irak, qui tend de chacun à constituer l'unité de la région à son profit. L'Empire byzantin est devenu le véritable centre de la chrétienté et le christianisme y est religion d'État. Nous y trouvons les plus anciens foyers chrétiens de l'histoire, de la Syrie à l'Égypte, notamment les grandes métropoles particulièrement influentes. Antioche, où apparut le nom de chrétien, mais aussi et peut-être surtout Alexandrie, où se recrutent parmi les plus célèbres théologiens de l'Antiquité. Mais l'Église s'est divisée sur le difficile problème de concilier l'humanité et la divinité de Jésus, ou de concevoir l'identité du Père et du Fils sans contredire l'unicité de Dieu. Mohamed sera particulièrement sensible à cette question. Ainsi, les églises chrétiennes du Proche-Orient se divisent en deux courants principaux, le monophysisme et le nestorianisme. Cela peut nous paraître un peu savant, et c'est pourtant le fond d'un grand nombre de problèmes, jusqu'au niveau politique, et qui intéresse particulièrement la naissance de l'islam. Il faut préciser en effet qu'il existe dans les églises chrétiennes une grande discussion autour du thème de la Trinité. Un problème qui touche particulièrement Mohammed, un Dieu 1 ou Dieu 3. Mais les choses se compliquent quand il s'agit de la divinité de Jésus, ce qui pose le problème de sa nature. Est-il un homme ? Où est-il Dieu? Où est-il les deux en même temps? Autant de problèmes philosophiques que de nombreux prédicateurs ont tendance à simplifier. Monophysisme va vers l'idée d'une seule nature. Le nestorianisme va dans le sens inverse. Les deux sont condamnés par les conciles. Au passage, les Coptes d'Égypte, dont on parle beaucoup en ce moment, sont monophysites. Ces divisions ont gêné l'évangélisation des Arabes, mais c'est surtout l'utilisation politique qu'en a fait l'empereur chrétien qui me semble éclairer la suite. En Perse, le christianisme est plus récent et plus dispersé, parfois en butte à la religion officielle. Perses et Byzantins se disputent la domination ou l'alliance des Arabes, et comme ailleurs, ils utilisent la religion comme arme diplomatique. Byzance mise beaucoup sur la conversion de la péninsule, mais sa manière de prendre les armes au nom de la doctrine officielle des conciles, doctrine qui deviendra l'orthodoxie, favorise les réflexes d'indépendance. Il faut reconnaître pourtant que la prédication de Mahomet ne découle d'aucun calcul, d'aucune spéculation sur cette situation. Il faut lui trouver une origine dans la pure expérience mystique déjà évoquée. S'il n'a jamais eu accès aux Écritures, le prophète a tiré de ses rencontres une certaine connaissance des grandes figures de l'Ancien Testament et de la vie de Jésus, mais s'il reconnaît la supériorité de ce dernier prophète, né miraculeusement, doué du don des miracles, élevé au ciel comme Moïse et Élie, il se place vite en dehors du débat entre juifs et chrétiens, ou entre les chrétiens, sur la messianité, la divinité, etc. La souveraineté et l'honneur de Dieu sont des réalités simples qui exigent une prédication simple. D'ailleurs, même sur cette base, Mohammed rencontrera très vite l'opposition. En effet, dans son milieu, l'abandon des idoles, l'annonce d'une résurrection et d'un jugement dernier, l'exhortation à une vie de retenue et de respect d'autrui sont aussi mal reçus à la Mecque que le message de Paul à Athènes, même si le message n'est pas le même. Et le prophète doit quitter sa ville, persécuté. Bien sûr, il y a un rebondissement que j'intitule « Le réveil des Arabes ». Les choses changent une première fois quand la ville de Médine s'ouvre à la nouvelle prédication et que l'obéissance religieuse se superpose au système tribal. C'est l'origine de l'Oumma, la grande communauté, notion sur laquelle je reviendrai. L'Oumma fédère les tribus arabes jusque-là en conflit. Ainsi, s'expérimente une conception qu'on pourrait dire théocratique de la société, qui deviendra le califat. La situation prend un tour nouveau quand s'organisent des représailles contre la Mecque, c'est-à-dire quand la nouvelle foi utilise à son tour la voie du pouvoir et des armes. Même si cette méthode est ressentie par le prophète comme douteuse et un peu exceptionnelle. Car la guerre sainte, ce que nous traduisons par djihad, ne signifie pas cette guerre-là, mais la guerre spirituelle, comme on la trouve dans certains cantiques protestants du réveil, l'un qui chante « Debout pour la Sainte Guerre ». Il ne s'agissait évidemment pas de sabres et de chevaux. Bref, Mohammed arrive enfin à s'installer à La Mecque en 630, et nous devons noter ici un changement dans son comportement même, depuis qu'il exerce un véritable pouvoir. Il s'accorde les attributs d'un chef traditionnel, poussant même loin la polygamie qu'il combattait chez les fidèles. De ce fait, les tribus de plus en plus nombreuses reconnaissent son autorité politique et religieuse. Les historiens s'expliquent mal d'ailleurs l'adhésion si rapide des Bédouins du désert. L'unité des Arabes se réalise de façon inattendue en quelques années, et sur la base d'une foi stricte, manifestée par quelques rites simples et profondément respectés. Un mot sur cette Arabie, elle constitue deux réalités géographiques et humaines presque contradictoires. D'une part, une immense péninsule à peu près désertique, parcourue de nomades et semi-nomades, que nous appelons les Bédouins, comme destinés à la misère, et d'autre part un environnement maritime, depuis le golfe Persique, l'océan Indien et la mer Rouge, des plus enrichissants. Tout le commerce de l'ancien monde passe par là, et les possibilités agricoles sont remarquables, sur le littoral sud notamment. Ce pays, fait pour le commerce en son pourtour, ouvre des possibilités aux Bédouins qui le prolongent par caravane en une véritable navigation du désert assez prospère au 6e et 7e siècle et qui donne lieu à l'établissement d'importants comptoirs arabes dans le pays du Nord. On comprend les convoitises que cela pouvait susciter dans les deux grandes capitales d'empire, byzantin et perse. Ainsi, pourquoi les Arabes ne penseraient-ils pas réaliser, eux, l'unité de cette région tiraillée, champ de bataille entre deux grands. Paradoxalement, les années qui suivent la mort de Mohammed, 632, en effet il a vécu peu de temps après son retour à la Mecque, ces années furent des années de conquête et de division. Sous les quatre premiers successeurs, qu'on appelle les califes, en 29 ans, les Arabes parviennent à soumettre tout le Moyen-Orient et répandent leur foi sans pour autant l'imposer. Conquête et conversion réussirent curieusement à peu près sans problème. Enfin, curieusement, il y a à vrai dire des explications possibles. Le conflit entre Byzance et la Perse a rendu instable leur présence au nord de l'Arabie, c'est-à-dire dans la Syrie-Palestine, fort fréquentée par les Arabes, comme on a dit. D'autre part, le pouvoir central, Constantinople, était mal perçu en Syrie comme en Égypte. Mais on peut considérer également que le christianisme byzantin, multiforme, n'était plus un facteur d'unité. À vrai dire, pour les populations, pour les masses, l'islam n'était peut-être pas très loin du monophysisme ou du nestorianisme dont nous avons parlé. Mais qui peut prétendre à la succession du prophète? Et quelle doit être l'étendue de l'autorité des successeurs? Voilà des questions qui vont entraîner schismes et crimes. Les califes prennent l'habitude de confondre l'empire qu'ils édifient avec la communauté religieuse, comme un peu plus tard Charlemagne dans la chrétienté. C'est dans ce climat qu'il faut situer les deux courants de piété si invoqués aujourd'hui, le sunnisme et le chiisme, qu'il est bien difficile de définir à partir de nos conceptions. Disons grossièrement que le chiisme rompt avec la tradition sunna pour une conception plus charismatique de la société islamique, guidée par des inspirés occasionnels, les imams, dans l'attente de l'imam final, comme une sorte de retour du Messie, alors que la sunna peut apparaître comme la source de formalisme, de la sécularisation de la communauté, dont le développement passe par la réflexion d'écoles juridiques. On pourrait ajouter à ce tableau que le chiisme se développe surtout dans le monde iranien et le sunnisme dans le monde arabe, des Iraniens qui ne doutent pas de la supériorité de leur civilisation. Sans doute cela perdure-t-il longtemps. Radio FM+, réseau associatif en Languedoc méditerranéen, antenne de Montpellier. Nous sommes à l'écoute d'une mise en perspective de l'islam depuis les origines. Nous en arrivons à la phase d'expansion. Bien, j'en arrive à une troisième phase de cette historique, qu'on pourrait appeler l'expansion dans une prétention universelle. En 80 ans, l'administration arabe et l'islam parviennent sans problème jusqu'à Tolède en Espagne et à l'Indus au Pakistan. Seule Byzance résiste. À partir du 8e siècle, il se structure un monde musulman au sud et à l'est de la Méditerranée, comme il s'édifie une chrétienté au nord-ouest, dans l'Europe encore un peu rugueuse, où les invasions ont abattardi la civilisation romaine classique. Les apports méditerranéens, arabes et iraniens se combinent pour donner une civilisation de haut niveau, héritière des anciens grecs et mésopotamiens, riche en découvertes que nous connaissons bien habituellement dans ses créations agricoles, notamment la maîtrise hydrologique, par son apport aux mathématiques, dans ses réalisations architecturales, de célèbres mosquées et palais, et c'est par l'intermédiaire des intellectuels que nous appelons arabes que l'Europe allait redécouvrir l'héritage gréco-romain, notamment la philosophie d'Aristote. Les grandes étapes ultérieures de l'évolution du monde musulman sont liées pour une bonne part, en ce qui nous concerne, au rôle des Turcs, dont l'intervention politique du XIe au XVe siècle, en gros, compromet les réalisations anciennes, mais assure l'extension, d'une part dans l'Europe des Balkans, jusqu'en Albanie, on en a dit un mot, et par ailleurs dans le nord des Indes, où d'autres empires prendront le relais, le célèbre empire moghol au XVIe siècle. Du XIIIe au XVIe siècle, l'islam pénètre également en Indonésie par l'intermédiaire de commerçants et explorateurs arabes, et dès le XIe siècle, de l'Égypte et du nord de l'Afrique, il touche les populations d'Afrique noire, jusqu'au Sénégal d'une part, et dans toute la zone soudanienne, comme on l'appelle. Dès lors, l'islam touche des peuples de civilisations trop différentes et de traditions politiques antagonistes. On assiste, comme dans l'Occident chrétien, à des conflits graves entre pouvoir civil et pouvoir religieux, à de dures guerres fratricides, à de violents affrontements d'empires. C'est ainsi que nous sommes portés à nous interroger sur la distance qui sépare l'idéal social de l'islam et les méthodes politiques qui nous reviennent facilement en mémoire. Honnêtement, quand même, ne poussons pas la question trop loin, on pourrait nous rappeler de curieuses choses. À l'inverse, nous devons prêter attention, à côté d'une piété populaire empreinte de superstition, de nombreuses formes de syncrétisme, à l'intensité de courants mystiques, allant jusqu'à la contestation sociale, comme par exemple le soufisme, qui insiste sur la religion du cœur et le renoncement aux richesses, et dont nous pouvons difficilement apprécier l'influence. Un problème reste posé, encore peu éclairé par les historiens, c'est celui du déclin du monde musulman depuis le XVIIe-XVIIIe siècle, dans ses foyers d'origine, qui explique en partie sa faible résistance devant l'impérialisme européen du XIXe. Notons que c'est précisément en ce XVIIIe siècle qu'apparaît en Arabie le wahhabisme, qui pense répondre à ce déclin par un retour à un islam purifié, dans la lecture littérale des textes sacrés, qui réclame le rigorisme et une gouvernance selon la charia. Au XIXe siècle se développe un courant proche, le salafisme. Salaf, comme je le comprends, renvoie au père fondateur, Mohammed et les quatre premiers califes. Il y a un grand débat chez les musulmans même sur la différence ou non entre wahhabisme et salafisme, et avant Wahhab, on a déjà prêché le retour aux sources et à la rigueur. Mais une adaptation moderne se fait depuis le XIXe siècle, dans la confrontation avec la sécularisation et la tentation des mœurs, voire de la politique à l'occidental, quand les Européens commencent à circuler dans la région. Mais ce salafisme est un mouvement plus qu'une dogmatique. Aussi peut-on distinguer un salafisme exclusivement puritain et un salafisme guerrier. Voilà cet emploi actuel du djihad. Pour qui le retour aux sources suppose le rétablissement du califat, rien de moins, aujourd'hui, c'est l'État islamique, Daesh. Dernière remarque sur ce parcours, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce monde musulman immense et si varié, culturellement, théologiquement, mais aussi dans l'ordre politique et économique, vit à l'unisson dans l'Oumma. S'il y a quelque chose qui fait bloc, c'est bien ça, un fait de conscience collective sous l'autorité des oulémas, autorité qu'on ne peut pas comparer à celle des églises dans le monde chrétien. Cette Oumma a pu se traduire par nation islamique. Mais c'est vrai que le mot nation est difficile à manipuler. La nation, c'est ce qui dépasse la tribu, l'ethnie, et finalement toute organisation politique. La nation en ce sens, Oumma, unit spirituellement et politiquement tous les peuples de l'islam, au point que l'islam n'a pas vraiment de théorie de l'État, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'organisation politique, d'où le califat précisément, qui a pu évoluer en califat concurrent. On ne va pas refaire toute cette histoire. D'ailleurs, un pouvoir islamique mondial était-il possible? Je ne reviens pas sur ce long passé. Le ciment de cette Oumma, nous devons le trouver dans les fameux cinq piliers de l'islam, que je vous rappelle. La profession de foi en le Dieu révélé par Mohammed, les cinq prières quotidiennes centrées sur l'adoration, le jeûne du mois de Ramadan, l'acquittement de la dîme, en plus des aumônes, et le pèlerinage à la Mecque, au moins une fois dans la vie. Ce pèlerinage est un événement écuménique au plein sens du mot, toute la terre habitée, occasion d'échanges humains et de découvertes sans précédent. Et puisqu'on parle d'écuménisme, signalons le rôle de la grande tradition universitaire islamique, informée des problèmes les plus complexes de la théologie, de la philosophie et du droit, notamment en Iran et Égypte, qui a préparé la prise de conscience actuelle et les possibilités d'adaptation au monde moderne. Écuménisme théologique qui illustre particulièrement l'université d'Al-Azhar au Caire depuis 1000 ans. Alors, Daesh, à quoi jusqu'ici rien ne nous amène explicitement. En effet, ce survol historique pourrait même nous installer dans une vision irénique des choses, alors même qu'on vit dans l'état d'urgence et que se répand l'islamophobie. Jusqu'ici, on était plutôt dans le registre religieux, mais justement, s'agit-il aujourd'hui de religion ou de politique? Et au fond, ce que chacun cherche à savoir, c'est ce qui est la source de la violence. En fait, quand Daesh apparaît dans mon titre, cela peut suggérer qu'il va s'agir du parcours d'un mouvement religieux de ses origines jusqu'aux pires manifestations de violence, autrement dit, qu'il s'agit de l'histoire d'une pensée porteuse de violence. C'est ce qu'attend la pensée islamophobe. À l'inverse, cette histoire qui commence par la vision réformatrice, civilisationnelle de Mohammed, pour finalement justifier une revendication destructrice hyper-violente, peut poser la question « Comment en arrive-t-on là ?» C'est cette perspective que je retiendrai. Avec le phénomène Daesh, mais on pourrait dire aussi Al-Qaïda, Taliban, etc., nous touchons à l'interférence du politique et du religieux. Cette interférence traverse-t-elle l'histoire ou est-elle liée au seul contexte contemporain? C'est pourquoi nous avons terminé ce parcours historique de l'Oumma de Médine à l'Oumma universelle en passant par les premiers califats, notion, nous venons de le dire, revendiquée par Daesh, signifie que dès le début, l'islam rencontre le problème politique et la violence politique, assassinat de calife et j'en passe. Mais il est difficile d'aborder cette question sans faire un parallèle avec le monde chrétien, et pas seulement au temps de Clovis. Allons plus loin. Aujourd'hui, si le phénomène touche à l'interférence du politique et du religieux, Daesh nous intéresse aussi comme affirmation musulmane contre le modèle de société occidentale. C'est un peu le thème américain du choc des civilisations. Cette expression qui n'est pas dans le titre anglais, en introduisant ce terme de civilisation, oblige à poser la question du rapport entre civilisation et religion, et pas seulement religion et politique. Revenons sur ce langage. On va confronter le monde musulman et le monde occidental. C'est comme ça qu'on parle. En France, en tout cas, on ne va pas dire le monde chrétien, comme on pourrait s'y attendre. Encore que remonte la mémoire d'une civilisation chrétienne à ce moment, critère d'européanité par exemple. Qu'y a-t-il derrière cet embrouille? C'est que la confrontation, qui du point de vue politique pourrait se polariser sur le passif colonial, se polarise en fait sur la sécularisation, notion difficile. Une sécularisation qui est une des marques de la modernité en question. Deux notions clés, en effet, dans le discours de Daesh, le colonialisme, remarquez qu'on nous appelle les croisés, et l'apostasie, Paris désignée comme la capitale de la dépravation. Nous, on croit que c'est Los Angeles ou Miami, bref. Pour entrer dans cette perspective, je propose de remonter un peu en arrière et de nous déplacer vers l'Iran, l'Iran de Khomeini, avec qui nous trouvons un avant Daesh important à comprendre. L'Iran est une des plus vieilles civilisations de notre coin du monde, mais depuis un peu plus d'un siècle, Iran rime plutôt avec pétrole. Un pétrole exploité et exporté avant la Première Guerre mondiale par l'anglo-iranienne. Avec la guerre, la disparition des empires ottomans et russes ouvre la porte aux Occidentaux au Moyen-Orient, ici donc les Anglais. De nouveaux pouvoirs se mettent en place. En Iran, un courant favorable à l'occidentalisation, comme en Turquie, aboutit à la déposition du Shah, un symbole par exemple le costume, la République aussi. Mais une recherche identitaire émerge et le pouvoir installe des pratiques dictatoriales. Après la Seconde Guerre mondiale qui avait introduit en Iran des troupes soviétiques et anglaises, se développent des courants politiques antagonistes soulèvement anglophobe favorable à la nationalisation du pétrole, soulèvement contre la dictature du Shah, lequel s'enfuit pour se réfugier où ? Aux États-Unis, qui le ramène le cadre et avec lui la modernisation du pays. Effets sociaux, la majorité de la population, finalement très conservatrice, supporte mal une certaine modernisation quand elle touche les mœurs. On pense aux problèmes notamment de la femme. À l'inverse, l'émergence d'une classe moyenne en ville pousse à la modernisation, notamment dans le sens de la démocratie, d'autant que le Shah pratique une dictature particulièrement odieuse. L'opposition argumentée à l'Occident et à la dictature vient alors des religieux. C'est ici que nous arrivons à Khomeini. Réfugié en Irak puis en France pendant la dictature, il a pu revenir au pays après le départ du Shah, chassé par un violent mouvement populaire en 1979. Khomeini avait écrit en 1971 un ouvrage choc, un cours qu'il avait donné à des étudiants, traduit en français en 1979, titré « Pour un gouvernement islamique », dont de nombreux passages m'ont intéressé comme historien, notamment après mon séjour d'enseignant au Togo, où j'avais rencontré ce problème de l'interculturel, et jusque dans ses aspects politiques. Khomeini situe sa démarche révolutionnaire dans sa réaction, 1. Aux Juifs, qui font problème depuis Mohammed, 2. À sa réaction au colonialisme, qu'il fait remonter aux croisades, et 3. Encore, aux profits capitalistes qui pourrissent tout. Pour lui, tout cela veut la mort de l'islam, qu'en fait on ne connaît pas. Et voici donc le fondement d'un gouvernement islamique. Le refus de la distinction occidentale entre civil et religieux. L'islam est forcément politique. La loi de Dieu révélée nécessite une mise en œuvre sous une autorité charismatique. Voilà qui fonde le refus de la monarchie et du parlementarisme et appelle une république islamique. Avec la sensibilité d'aujourd'hui, on peut remarquer qu'il ne s'agit pas de califat, en tout cas à ma connaissance, et cela correspondrait bien à la distance entre le chiisme de l'Iran et le sunnisme des Arabes voisins. Voilà donc à la fois un exemple de la question interne du rapport religion et politique en islam, mais aussi un exemple de la nécessité aujourd'hui de penser la politique par rapport à l'Occident, non seulement face à la permanence appuyée de l'impérialisme d'une sorte d'ennemi héréditaire, en remontant jusqu'aux croisades, mais face à un danger moral, la fascination de son modèle même de civilisation. Et on le sent bien, c'est moins le christianisme en soi qui est visé que la déchristianisation. C'est pourquoi on parle de grand Satan. Cette situation de l'Iran entre tradition et modernisme, entre liberté et dictature, dans le respect de la conviction islamique et sous la pression de l'image de l'Occident et de ses méthodes, dont l'ingérence, est en fait la situation de toute une région. Au Proche-Orient, nous trouvons des républiques laïques et des monarchies féodales et esclavagistes, mais aussi des républiques islamiques et des monarchies parlementaires. Il faudrait, secteur par secteur, évoquer l'histoire de leur mise en place sous l'influence officielle de l'Occident. Bien sûr, on pourrait commencer avec l'aventure de Napoléon en Égypte, déclic d'une certaine modernisation et pour nous la découverte naïve de grandes civilisations, source d'un malentendu important d'ailleurs. Mais le réel d'aujourd'hui découle directement de l'élaboration du paysage dans les traités qui démantèlent le monde turc, l'Empire ottoman engagé dans la Première Guerre mondiale, entre le traité de Sèvres 1920 et celui de Lausanne 1923. Les pays dessinés ne correspondent pas forcément à des entités antérieures, dont l'une des plus évidentes, l'entité kurde, n'a pas eu droit à retrouver son statut politique. Vous reconnaissez là un des éléments de la crise actuelle. Et cela se fait dans l'ignorance de la répartition millénaire des chiites et des sunnites, mais aussi des minorités chrétiennes ancestrales. Ces pays libérés de la domination turque sont placés sous la tutelle de l'Angleterre et de la France, et la logique générale du développement passe ostensiblement par la géographie du pétrole. 100 ans après, cela pèse encore lourd, d'où la confusion sans doute entre l'argumentaire religieux et un certain ressentiment. Cela incite à porter le regard plus sur l'histoire d'une région, de sa civilisation et de ses rapports avec l'extérieur, nous par exemple, que d'en rester au point de vue théorique qui nous font remonter au salafisme et au wahhabisme, même si ces réalités constituent un point sensible pour la communauté musulmane en dialogue. Venons-en à notre actualité. Dans un article reproduit dans un petit livre tout récent, « Qui est Daesh ?», Edgar Morin a écrit que le 7 janvier 2015, la guerre du Moyen-Orient est entrée en France. Or, écrit-il plus loin, « cette guerre est un conflit pourri, je cite, mélange de guerre civile, de guerre de religion et de guerre internationalisée. » Bien sûr, dans cet état de guerre actuel, depuis 30-40 ans quand même, où s'opposent modernistes et conservateurs et où la corruption tient sa place, n'oublions pas que le fanatisme religieux passe par des logiques nouvelles. Pensons essentiellement à la guerre froide, quand soviétiques et américains se disputaient la région. Le fait le plus flagrant, à mon avis, l'initiative américaine de compter sur l'opiniâtreté des premiers islamistes radicaux pour faire obstacle à l'URSS. C'est ainsi que commence la sinistre aventure des talibans. Certes, si l'on ne maîtrise plus l'incendie, c'est qu'il a sa propre dynamique interne. Et c'est pourquoi son opposition à une certaine modernité déstabilise d'abord le monde musulman lui-même. Il faut lire « Moi, Malala », le livre de Malala, précisément, la géniale pakistanaise de 16 ans à l'époque, prix Nobel, où elle raconte cette hargne constamment destructrice contre l'école même, et pas seulement les Bataclans du lieu, sans parler de la réclusion des femmes, comme on peut s'en douter. Et malheureusement, c'est peut-être pire du côté de Boko Haram. J'ai entendu il y a quelques jours à Montpellier un travailleur social camerounais qu'on interrogeait sur Boko Haram. C'est pire que tout. C'est tout simplement fou. Là-bas, on incendie tout simplement des villages au nom de la purification divine. Mais ce n'est pas par hasard que ce mouvement se concentre au sein de la profonde crise politique du Moyen-Orient. L'argumentaire religieux nous trouble, mais les enjeux dépassent considérablement ce champ. Ainsi, Daesh est loin d'être le fond du problème en Syrie. Que conclure ? D'abord qu'au cours de l'histoire, depuis au moins 5000 ans, religion et politique cheminent ensemble, institutionnellement parlant, je dis 5000 ans parce qu'au-delà, on ne sait pas trop ce qui se passe, et c'est tantôt dans la confrontation, tantôt dans la fusion, dans l'entrelacement. De fait, l'histoire que nous analysons le plus rationnellement possible ne se déroule pas selon des plans rationnels. La politique comme la religion ont un problème avec la rationalité. Elles portent en elles la passion, passion du pouvoir, passion de la vérité en chacune d'elles, vérité du libéralisme, vérité du Coran, etc. Et aujourd'hui, dans le contexte particulier de la guerre au nom de la révélation, mais aussi dans la difficulté de vivre l'interculturel, l'émotion joue un grand rôle, avec le jeu des peurs, des amalgames, le besoin d'appartenance, source de communautarisme de tous bords. Et concernant la passion, pensons à un problème qui apparemment n'a rien à voir avec ça, celui de l'émancipation, de l'intégration des Noirs aux États-Unis. La question des droits civiques, rappelez-vous. Notre sensibilité retient l'action de Martin Luther King et de ses convictions chrétiennes, inspirées de Gandhi, néanmoins, je vais y revenir. En général, nous avons oublié qu'une partie de la communauté noire milite avec les Black Panthers, partisans de la violence, et d'autres avec les Black Muslims, les musulmans noirs. Tout le monde a en tête, je pense, le nom de Malcolm X. Or, Malcolm X est le fils d'un pasteur baptiste noir, et il se convertit à l'islam après certains déboires pour devenir un prédicateur acharné de la nation de l'islam. C'est le titre du mouvement. Nous avons déjà rencontré cette idée de nation. Nous sommes au milieu des années 50. Certains pourraient penser à Bandung, centre du grand mouvement anticolonialiste mondial. Je ne peux insister sur cette importante page d'histoire, mais je souligne que l'islam apparaît comme la religion des opprimés et à une échelle géopolitique, bien sûr sans trop de préoccupations théologiques. Si maintenant je me tourne vers l'Inde de Gandhi, qui a joué les premiers rôles à Bandung, on devrait être intrigué par cette contradiction entre la vieille tradition de sagesse hindoue, qui inspira le moderne mouvement de la non-violence, et la violence actuelle de la société hindoue, non seulement la violence sociale, mais les courants politiques communautaristes. Une violence qui a dans son collimateur, entre autres, l'environnement musulman, alors que l'islam a connu là-bas le succès d'une religion de libération. Et n'oublions pas que c'est un hindou qui a assassiné Gandhi. Voilà pour la relation entre passion, violence et libération. Reste à dire un mot sur cette fameuse sécularisation à laquelle il a plusieurs fois été fait allusion, comme source de malentendus, voire d'hostilité, et qu'il ne faut pas confondre avec la laïcité. Il faut comprendre la sécularisation en profondeur de notre société occidentale dans le sillage d'un lent mouvement de pensée qu'on peut faire remonter au Moyen-Âge, qui devient explosif à la Renaissance et aboutit au mouvement des Lumières au XVIIIe siècle. Au cœur de ce mouvement, le problème de la rationalité, foi et raison, science et religion, c'est le lieu ici de placer le nom d'Averroès, dont on parle de plus en plus jusqu'au Café Gazette à Montpellier. Averroès, le célèbre penseur musulman du foyer arabo-andalou au XIIe siècle, qui a fait redécouvrir Aristote aux théologiens chrétiens voisins. Impossible ici de se lancer dans une pensée d'Aristote ni dans ce qu'elle inspire à Averroès dans l'esprit et le langage universitaire de l'époque. Disons que le rationalisme d'Aristote, qui paraît dangereux pour les traditions de pensée aussi bien chrétiennes que musulmanes, finit par être adopté et adapté par les universités chrétiennes occidentales, alors que les autorités musulmanes rejettent Averroès et font brûler ses ouvrages. Depuis ce temps, dans nos régions, on pense autrement le savoir et le croire. Et les disciples chrétiens d'Averroès œuvrent à repenser la séparation et l'harmonisation du spirituel et du temporel, jusque dans les implications politiques d'ailleurs. À partir de là, l'effet de l'articulation de la science, de la technologie, du libéralisme économique engendre une nouvelle société que la théologie a du mal à cadrer, de nouveaux modes de pensée, mais aussi d'autres modes de vie sociale. Au fond, c'est bien cela qu'on appelle civilisation occidentale. Un modèle qui n'a pas tardé à se répandre à travers le monde, celui-là même que dénonçait Khomeini et maintenant Daesh. Tout ceci pour dire que notre repli identitaire, en tout cas en France sous prétexte de Daesh, me paraît manquer de clairvoyance et de perspective. Évidemment, la menace terroriste existe et on connaît les moyens techniques pour y faire face, mais ça ne justifie pas le brouillage idéologique et l'ignorance du débat de fond sur les valeurs. Marcel Gauchet, dans son livre Le désenchantement du monde, une histoire politique de la religion, parle de la sortie de la religion, expression reprise par Abdennour Bidar membre de l'Observatoire de la laïcité, dans un livre récent, Comment sortir de la religion, aux éditions Les Empêcheurs de tourner en rond. Il veut par là répondre aux défis spirituels de notre temps, ce sont ses propres termes. Bidart note notamment en substance que l'Orient, Inde comme monde musulman, sous l'effet d'une paresse philosophique et religieuse, n'apporte aujourd'hui rien de neuf, alors que l'athéisme occidental a engendré l'absurde et de nouvelles aliénations. J'ajouterai que c'est ainsi qu'on peut trouver la barbarie partout. Le nazisme, le goulag, Pol Pot et bien d'autres nous en assurent. Toutes les idéologies absolues lui permettent de se défouler. Notamment la soif de pureté, qui permet de passer de la destruction du mal, de l'erreur, à la destruction du prétendu méchant. Je termine par une note insolite. Vous connaissez la revue Le Monde des Religions. Dans chaque numéro, des questions sont posées à Odon Vallée, spécialiste en la matière. En voici une, inattendue sans doute. Mahomet était-il chrétien? Apparemment, ce n'est pas le cas, mais la question n'est pas absurde. Dans le contexte que j'ai évoqué, un mystique de l'Arabie aurait pu être chrétien, puis fonder sa propre vision des choses dans le sillage des hérésies dont j'ai dit un mot, plus adapté à son peuple et à sa culture. Je crois savoir que Luther, à l'époque où Charles Quint a affaire avec les Turcs, classe l'islam au rang des sectes orientales. Il était peut-être plus sévère pour les Juifs. Le mouvement interreligieux actuel, qui s'intéresse à la proximité des trois monothéismes abrahamiques, va plus loin en voulant contourner les confrontations, les affrontements, sur la base d'une spiritualité commune. Mais est-ce une réponse pour des opinions publiques à qui Daesh envoie le message inverse? Ici, pour un instant, je prends à mon compte la rébuffade du Premier ministre. Ce n'est pas avec votre récit historique et son versant sociologique que j'éviterai un nouveau Bataclan. Évidemment, l'État doit protéger, mais là, on est dans l'urgence. Toutefois, il est urgent de voir au-delà de l'urgence. Merci. Sur FM Plus Studio de Montpellier, André Bourguet à l'antenne, je viens de vous proposer une réflexion sur l'islam à travers l'histoire et sur le phénomène ultra-violent qu'il inspire aujourd'hui à des minorités dans un contexte géopolitique qu'il faut bien identifier, un contexte de violence qui dépasse le fait religieux. Au revoir et à bientôt pour un prochain parcours sur FM Plus.